Bernard Louis Roch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et directeur général de Truffle Capital. On va parler avec vous, hein, d'un palmarès et puis d'un secteur dont on parle beaucoup, les logiciels, hein, avec palmarès donc, que vous avez publié, les 100 premières sociétés de logiciels en Europe. C'est un palmarès maintenant que vous publiez depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a été le plus significatif pour vous? J'ai l'impression quand même cette question d'investissement pour ces entreprises, cette R&D de plus en plus nécessaire, puis en même temps cette question des marges a été au centre un petit peu de cette année.
C'est une année charnière, effectivement. Les éditeurs de logiciels structurellement investissent en recherche et développement parce que par nature, ils développent les produits de demain. Entre 15 et 20% du chiffre d'affaires est classiquement investi. Cette année, on est dans les ratios habituels, 42 milliards de chiffre d'affaires, 6,3 milliards investis dans la R&D. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que l'on investit plus que ce que l'on gagne, puisque les bénéfices sont pour la deuxième année consécutive, donc ça commence à devenir structurel et non pas conjoncturel, les investissements en recherche et développement dépassent les ressources dégagées par les bénéfices.
Et ça, c'est valable pour, on va dire, le secteur ou des sociétés qui, par exemple, n'auraient pas investi assez tôt dans le cycle.
C'est valable pour les sociétés européennes. C'est dû à plusieurs facteurs qui se manifestent en même temps. La croissance, alors la croissance est faible. On a 2,7% de croissance en logiciel. Alors évidemment, si l'économie française ou l'économie européenne croissait à 2,7%, beaucoup de gens sauteraient de joie. Mais pour le logiciel, c'est quand même extrêmement décevant. Quand on travaille dans le logiciel, quand on travaille pour une société de logiciel, si on n'a pas des objectifs à plus 10%, c'est que effectivement, on se sent dans un environnement un peu décalé. Donc là, 2,7% de croissance cette année, c'est très bas par rapport à tout ce qu'on a connu, au moins depuis que l'on mesure avec le Truffle 100 ces chiffres-là,
Et
c'est-à-dire depuis 2007.
c'est lié justement à cette transformation en cours, hein, le fait qu'on crée à la fois de nouveaux produits, de nouveaux systèmes, on parlera sans doute des software as a service par exemple, ce nouveau mode de consommation de ce type de technologie et que ça prend du temps à se mettre en place.
C'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase critique, il y a une pression, une concurrence internationale qui n'est plus seulement américaine maintenant, qui vient aussi d'Asie, mais il y a ce qu'on appelle un changement de paradigme. Vous mentionnez le SaaS, le Software as a Service, qui est un vrai changement de consommation des éditeurs de logiciels, mais aussi un changement de production, de développement. Et finalement, un business model radicalement différent, puisque on ne vend pas un logiciel hébergé que l'on appelle as a service, donc qu'on va payer au mois le mois ou par année sous forme d'abonnement, de la même façon qu'on consomme, qu'on achète un logiciel sous forme de licence qu'on va payer one shot, une licence souvent élevée, et ensuite de la maintenance et du service. Et la transformation du business model est radicale. On va faire en fait l'impasse sur un revenu immédiat pour miser sur la durée. Et ce changement radical, c'est jamais facile, que ce soit pour l'industrie du logiciel ou toute industrie en général, d'avoir à faire face à un changement aussi radical de paradigme.
Entre les petits, puisque là dans votre classement on a les grands, on va dire les grandes marques connues, hein, les SAP et d'autres, ou Dassault Systèmes pour prendre
Bien sûr.
une société française, et puis des plus petits acteurs. Est-ce que finalement les grands ont eu plus de facilité à s'adapter ou pas? Parce qu'on voit aussi parfois des petits acteurs qui ont fait cette transformation assez vite.
Les grands cherchent à s'adapter, ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'adapter. Les grands ont pour eux l'avantage d'avoir des ressources financières très significatives, d'avoir un peu le temps pour eux, la base installée client pour eux. Puis le marché européen ne se transforme pas aussi vite que le marché américain. Il y a un certain conservatisme qui n'est pas que du côté des éditeurs de logiciels, mais qui est aussi du côté des clients. Tous les clients ne veulent pas basculer d'un seul coup tout de suite dans le SaaS. Donc, les grands éditeurs se sentent motivés, poussés, mais c'est peut-être moins alarmiste pour eux que les petits éditeurs. Surtout que les marchés financiers ne sont plus le moteur de financement des éditeurs de logiciels.
Alors du côté hein, des thématiques qui reviennent, on a parlé du software as a service, on voit aussi dans ce que vous citez le cloud, il y a un certain nombre comme ça de thématiques qui sont vraiment en train de se mettre en avant dans ce secteur-là.
Oui, le cloud, le software as a service, et finalement c'est un peu la même chose puisque on héberge le software dans le cloud. sont une tendance majeure. Donc, ce n'est pas conjoncturel à cette année, ça va prendre une ampleur massive. Progressivement, le software traditionnel ne va pas disparaître, il va coexister avec le cloud, le software as a service, mais c'est une transformation très importante et on va en entendre parler pendant les prochaines années de façon conséquente. Des révolutions entre guillemets un peu moins importantes, mais qui sont en train d'arriver, c'est effectivement la mobilité. Tout un chacun, vous, moi, on consomme entre guillemets les logiciels de façon différente. On est très souvent sur nos smartphones, sur nos tablettes, en voyage, en déplacement ou même à Paris ou chez soi, on va consommer des applications. Donc ça, effectivement, c'est un nouveau mode de livraison des logiciels.
Ce que vous décrivez là, finalement, dans ce classement de 2014, est-ce que ça, puisque vous êtes aussi un investisseur, hein, parmi d'autres, mais un investisseur qui connaît bien aussi ce secteur-là, est-ce que ça va amener à plus de consolidation du secteur? Quelle est un peu la conséquence de ce nouvel état de fait du secteur?
Très probablement. Si on analyse les choses de façon un petit peu factuelle, difficulté de financement et faible attractivité des marchés financiers pour les éditeurs de logiciels, nécessité d'investir plus, ça c'est l'Europe. Si on prend l'Amérique, abondance du financement, capital risque, business angels, valorisation très attractive en bourse, possibilité de se financer sur les marchés financiers à des valorisations très élevées, alors que finalement on va valoriser les éditeurs de logiciels en France et en Europe de la même façon qu'on valorisera un industriel sur un marché un peu mûr, classique, avec des multiples EBITDA qui sont même parfois inférieurs à ce qu'on trouve dans le marché du LBO. Dans un contexte pareil, il est quand même très envisageable que les éditeurs américains, forts de ressources financières fortes, forts d'une agressivité renouvelée, viennent faire leur shopping, si on peut dire, dans les éditeurs européens.
Et un éditeur qui aurait un savoir-faire dans un domaine ou effectivement des capacités dans tel domaine peut être une cible pour ce type de rapprochement.
Il peut être une cible pour ce type de rapprochement parce qu'il va trouver une valorisation plus élevée dans la vente à un éditeur américain qu'il ne le trouverait en essayant de se coter en bourse et en y parvenant, mais à une valeur faible.
Et vous êtes donc investisseur et vous cherchez aussi des nouvelles idées. Est-ce que ça veut dire aussi que peut-être, à la fois dans le classement, il y a peut-être des sociétés qui n'y sont pas aujourd'hui, qui potentiellement seront des sociétés en devenir dans ce secteur en pleine transformation?
Nous sommes à fond sur le SaaS. Donc nous y croyons dur comme fer. Nous sommes aussi convaincus qu'il existe en Europe et particulièrement en France des ressources techniques et d'ingénieurs assez fantastiques, à un niveau d'éducation scolaire, d'inventivité aussi, parce qu'on a cette particularité d'être à la fois un peu des matheux et en même temps assez inventifs. Je pense qu'il y a une capacité à faire des sociétés innovantes extraordinaires. Ce qui manque aujourd'hui, probablement, c'est la prise de conscience qu'il faut faire une politique industrielle sur l'innovation et sur le software, parce que les générations à venir vont probablement plus travailler dans ces secteurs-là que dans des secteurs traditionnels, que ce soit la sidérurgie ou le textile, la chaussure, des choses comme ça. Ce sont des marchés qui vont, dans certains segments, évidemment connaître des succès, mais les générations à venir, dans une grande partie d'entre eux, vont chercher des emplois dans ce domaine-là. Et je pense que c'est essentiel qu'on puisse leur procurer ces emplois.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Bernard Louis-Roch.
Je t'en prie.